partie, je l'ai intitulée « Le nouvel Adam, l'homme nouveau ». Le nouvel Adam, l'homme nouveau. Commençons par lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er. Romains 1. De Romains chapitre 1, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Ensuite, nous pouvons lire, sans perdre la page des Romains, dans l'évangile de Luc au chapitre 1er et au verset 35. À titre de rappel, Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Si bien que Jésus est donc appelé Fils de Dieu lors de l'incarnation. On peut dire une première fois, il est appelé Fils de Dieu. Et nous venons de lire dans les Romains que après la résurrection, ou plutôt, au moment de la résurrection, il est appelé, il est proclamé, proclamé fils de Dieu avec puissance, ou déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il est donc là déclaré, proclamé fils de Dieu une seconde fois, mais d'une manière particulière, c'est ce qu'il nous faut considérer d'abord. Nous pouvons dire que le Seigneur Jésus se présente dans l'humanité dans un premier état. Un premier état. Cet état, c'est celui de l'abaissement. L'abaissement dont il nous est parlé dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, versets 6 et 8. C'est l'abaissement, l'entrée dans la chair mortelle, dans l'humanité, dans une chair semblable à celle du péché. Toute l'œuvre est à faire à ce moment-là. Et à la croix, le Seigneur pourra dire « Tout est accompli ». Tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y aura plus qu'à faire valoir, à utiliser. Tout est accompli. Voilà le premier état. Le second état intervient à la résurrection. Et là, comme nous l'avons lu, Jésus est établi fils de Dieu avec puissance. Il cesse d'être le serviteur abaissé et il devient le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je prends cette expression précisément dans les Philippiens chapitre 2, verset 9, chapitre 2. Des Philippiens, verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Voilà donc un second état qui intervient au moment de la résurrection. Le Seigneur est affranchi de la mort et il entre dans un mode d'existence qui est conforme à son essence. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Je ne veux pas détailler davantage, il y a bien des choses à dire. L'Esprit de sainteté, c'est l'Esprit Saint, mais qui apporte là une disons, une circonstance particulière. Ainsi, c'est là que l'homme nouveau naît. L'homme nouveau dont il est parlé dans les Éphésiens, nous allons le voir tout à l'heure, cet homme nouveau est juste, il est saint et il est vrai. Vous me direz, mais le Seigneur a toujours été cela. Bien sûr, puisqu'il est sans péché et qu'il a accompli parfaitement la volonté de son Père. Mais l'humanité qu'il avait prise était semblable à celle du péché. Ce n'est pas une humanité sublimée, c'était une humanité mortelle, une humanité qui ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître l'obéissance à Dieu. La chute a supprimé complètement dans l'homme la possibilité d'obéir. La chair ne peut pas obéir à Dieu. Elle ne le peut pas. Et Jésus a rétabli, lui, l'obéissance dans cette nature humaine qu'il a prise pour accomplir l'œuvre de rédemption. C'est pourquoi je dis que dans l'homme nouveau, vraiment, il y a là l'homme juste, saint et vrai. Il est appelé dans 1 Corinthiens le dernier Adam, ou le second homme, ou le céleste. Ces expressions parlent bien d'elles-mêmes. Le second homme n'est plus le premier, l'homme de la chute, c'est le second homme qui est descendu et qui a relevé ce que le premier avait fait tomber, il a relevé. Et voici maintenant un homme nouveau, juste, saint et vrai. Et cet homme nouveau, vous allez voir pourquoi dans un instant je dis cela, cet homme nouveau a une identité. Il se nomme Jésus, Christ est Seigneur. Il est aussi un modèle. Et j'en prends à témoin Romains 8, 29, qui dit qu'il est le premier-né entre plusieurs frères. Plusieurs, dans le grec, c'est une foule. Il est le premier-né ressuscité, le premier-né entre plusieurs frères, qui vont, eux, emprunter l'image, son image. Il est, en somme, l'archétype, l'image définitive à laquelle les appelés, ceux qui sont appelés, seront semblables. Toujours dans Romains 8, 29. Rien ne nous empêcherait de le relire. 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il est le premier-né, c'est-à-dire il est le type de tous ceux qui vont venir après lui et qui emprunteront son image. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, c'est-à-dire d'amener toutes choses à son image. Il a un pouvoir, donc, de cela. Et s'il transformera en définitive nos corps à l'image du sien, c'est que, déjà, notre esprit aura été amené à la ressemblance au sien. Cet homme est donc l'homme nouveau en tant que modèle. Et c'est surtout l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, qui nous parle de cela. Éphésiens, chapitre 4, et verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme, et qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cet homme nouveau est donc le modèle auquel seront amenés tous les rachetés du Seigneur. Cet homme nouveau est voulu par Dieu. Dieu a voulu que cet homme nouveau, un jour, paraisse. Il est voulu par Dieu et il est prêt. Il est tout à fait prêt pour le royaume de Dieu. La mort est derrière lui. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles, déclare Jésus devant l'apôtre Jean. Pour lui aussi, la servitude de la chair a complètement disparu. Le Seigneur Jésus l'a connu, cette servitude de la chair, lorsque, avant la crucifixion, il a été tenté en toutes choses, comme nous, il a été victorieux, toujours victorieux, mais il a connu cette servitude, et il a fallu qu'il apprenne l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes, et il a versé des larmes, il a supplié son Père de le délivrer de la mort. Nous connaissons particulièrement sa lutte à Gethsémané. Ainsi, la servitude de la chair est absolument maintenant éliminée, elle a disparu. Voyons l'homme nouveau, le nouvel homme, et l'ancien qui est appelé par Paul le vieil homme. Mais je l'appelle l'ancien puisque nous disons le nouvel homme, alors par opposition disons l'homme ancien. D'ailleurs c'est ce que veut dire vieil homme, l'homme précédent, l'homme ancien. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont différencié les deux. L'homme tel qu'il apparaît par naissance de chair, tel qu'il apparaît sur la terre, n'a pas d'autre perspective que la condamnation et la mort. Pour cela, vous le savez, tout homme a péché et la mort est entrée dans l'humanité par un homme, elle s'est étendue à tous les hommes, tous ont péché et par conséquent, tous sont sous le coup d'une condamnation de la justice de Dieu, de ce grand ordre qu'est la justice de Dieu. Il n'y a donc pour tout homme qui apparaît sur la terre aucune autre perspective que la condamnation et la mort. Il n'y a donc aucune espérance sans le salut. C'est bien ce qu'exprimait Job dans le chapitre 14 de ce livre. Job, chapitre 14 et verset 7. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il ? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Là est la constatation que l'on peut faire, que l'on pouvait faire, qu'il faut faire, lorsque le salut n'est pas recherché et reçu. En dehors du salut, donc, il n'y a pas d'espérance. Paul le reprend dans le Nouveau Testament, les hommes sont sans Dieu et sans espérance. La mort est la mort que Dieu a voulu après le péché. La mort est le non. dit par Dieu au péché. Dieu a dit non au péché. Et ce non, c'est la mort. Tu mourras. Voyons Romains 6, verset 23. Romains chapitre 6 et verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est-à-dire la conséquence inéluctable du péché, de l'état de péché de l'homme, conséquence inéluctable, c'est la mort. La mort, c'est le refus de Dieu de laisser vivre le pécheur. Le nom de la justice de Dieu, précisons-le. Mais Dieu appelle à la vie l'homme qui ne vit plus. Nous avons rappelé plutôt que les hommes, en dehors de la connaissance de Jésus-Christ, sont morts. Vous étiez morts par vos offenses. Mais Dieu, lui, va appeler à la vie l'homme qui ne vit plus, étant mort par ses offenses et par son péché, et il veut le conduire, voilà le plan de Dieu, il veut le conduire à revêtir un autre type d'homme, c'est-à-dire l'homme nouveau, que Jésus, excusez-moi le terme, que Jésus prépare, que Jésus fait naître en sa personne. L'ancien homme étant, lui, rejeté. Il est l'objet d'un dépouillement. Il est rejeté, il est abandonné. C'est en lui, avons-nous lu, que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme, de l'ancien homme. Les trois jours que le Seigneur a passés dans le sépulcre sont la cause d'une discontinuité entre l'ancien homme et le nouveau. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, nous allons le préciser, de constater qu'il y a une différence énorme entre l'ancien homme et le nouvel homme. Alors, c'est pourquoi je dis qu'il y a discontinuité. Ils sont absolument dissemblables. Et ce sont les trois jours que le Seigneur a passés dans le sépulcre qui sont en somme la cause, nous apparaissent ces trois jours comme la cause de cette discontinuité entre l'ancien homme et le nouveau. Jésus était venu dans le monde porteur d'une chair semblable à celle du péché, il faut le rappeler constamment, ne pas oublier cela. Il sort du sépulcre dans l'état de l'homme nouveau, dans un second état, on nous dit tout à l'heure, le premier état est abandonné, il sort dans l'état de l'homme nouveau. Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 14, Marc, chapitre 14 et verset 58. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en bâtirai un autre, et qui ne sera pas fait de main d'homme. Et nous savons ce que veut dire le Seigneur là, en tout cas, si nous ne le savions pas, nous pourrions reprendre un passage parallèle dans Jean, chapitre 2, et verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans. » pour bâtir ce temple, il pensait au temple de pierre, bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ainsi donc, c'est bien cela, il y a destruction de l'ancien temple, et apparition d'un nouveau temple qui ne sera pas fait de main d'homme. Alors, cela peut nous étonner, mais pas du tout. Dans Jean, précisément, puisque nous y sommes, nous pouvons lire, relire au verset 12, chapitre 1 de Jean, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Donc, c'est avec raison que le Seigneur Jésus parlait d'un autre temple qui ne sera pas fait de main d'homme. L'homme nouveau, voici, il naît donc non pas de la volonté du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais il naît de Dieu. Il y a donc discontinuité entre l'homme ancien et le nouveau, puisque le nouvel homme est tout différent du premier. Alors, j'ai insisté un peu sur ce terme de discontinuité, vous comprenez ce que ça veut dire. Il y a une différenciation capitale, énorme. Bon, mais alors maintenant que nous avons dit cela, il faut dire aussi qu'il y a continuité. C'est curieux, nous venons de dire discontinuité et nous allons dire maintenant il y a continuité. Il y a continuité aussi, c'est un paradoxe, mais vous savez que nous en avons plus d'un dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu utilise et nous apporte forcément des situations paradoxales, mais à nous de bien comprendre. Il y a donc aussi continuité, puisque l'homme qui sort du sépulcre est celui qui y est descendu. Et pas un autre, c'est le même. Lorsque le Seigneur Jésus va se présenter, étant ressuscité, à ses apôtres dans Luc 24, il va leur dire, eh bien, touchez, enfin, c'est à Thomas qu'il va dire cela surtout, mais il va leur dire à eux, c'est bien moi, n'ayez pas peur, c'est bien moi, c'est pas un fantôme, c'est moi, Jésus, c'est bien moi. Eh bien moi, il y a donc conservation de l'identité de Jésus malgré la discontinuité entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Et les différences entre les deux hommes sont profondes. En effet, allons rapidement, mais précisons-le, l'homme ancien est un homme qui se corrompt, nous a dit Éphésiens 4, c'est un homme qui se corrompt par les convoitises. L'autre, l'homme nouveau, est créé pour la sainteté. Il est créé pour la sainteté. L'homme ancien est celui que Paul appelle dans 1 Corinthiens 15 l'homme animal, un corps animal. Et puis, l'autre, au contraire, a un corps spirituel, il est appelé le céleste. Le céleste. Voyez par conséquent que les différences entre l'homme ancien et l'homme nouveau sont radicales. Je disais tout à l'heure que l'homme nouveau avait été voulu de Dieu. C'est lui qui était en vue dans le dessein de salut de Dieu. Dieu voulait faire apparaître cet homme nouveau et il a donné cette mission à son fils. Voulu de Dieu, car Dieu l'a créé selon son désir et selon son plan. C'est bien ce que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 4. L'homme nouveau, créé selon Dieu, selon le plan de Dieu, selon le désir, selon la volonté de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, voyons un peu ces termes. Créé selon Dieu, dans une justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire dans un état de conformité absolument certain et totale à la volonté de Dieu. La justice, l'état de justice, c'est l'état qui résulte d'un accomplissement absolu des lois de Dieu, de la volonté de Dieu. Donc il est créé comme l'homme capable, absolument capable, d'observer totalement, parfaitement, la volonté de Dieu. Il n'y a donc plus dans cet homme de place pour la volonté d'autonomie. Si je dis cela, chers amis, c'est que c'est ce qui caractérise l'homme de la chute. L'homme de la chute, c'est un homme qui s'est voulu autonome. Il s'est voulu indépendant de Dieu. Il a voulu lui-même voir régler sa carrière, sa destinée. Il l'a vu autrement que Dieu. Et actuellement, notre monde, l'homme de notre société moderne est de plus en plus caractérisé par cela, c'est l'autonomie. Au point que les penseurs et les philosophes de ce qu'on appelle l'humanisme anti-Dieu, ont employé des termes bizarres, comme par exemple celui-ci, l'homme total, c'est-à-dire l'homme qui se suffit à lui-même, hein. Pas question d'être assujetti à une divinité quelconque. Il se suffit à lui-même. Ou bien l'homme absolutisé, c'est barbare comme terme, l'homme absolutisé, il est absolu. Et ça, c'est ancré dans la philosophie, dans la pensée moderne, surtout évidemment dans les classes intellectuelles. Donc, il n'y a plus de place dans l'homme nouveau pour la volonté d'autonomie, pour une propre justice. Il n'y a plus de place. Et la fidélité est parfaite. Voilà ce que veut dire que l'homme nouveau est créé dans une justice. Mais il est créé aussi dans une sainteté. La vie de l'homme nouveau est un domaine, la vie de l'homme nouveau est un domaine où Dieu règne. Et où ce règne est reconnu et aimé par l'homme lui-même. L'homme nouveau reconnaît ce règne de Dieu dans sa vie et il l'aime, il y est profondément attaché. Aucun autre règne ne pourrait s'y introduire. Nous avons vu hier ce que on peut appeler règne, n'est-ce pas ? Vous rappelez la démonstration que nous avons faite des cinq règnes, et le dernier règne, précisément, c'est le règne où se situe l'homme nouveau, et que nous avons appelé le règne des cieux. Pour la bonne raison, c'est que le terme grec basileia se traduit aussi bien par règne que par royaume. Donc, voilà pourquoi cet homme est créé dans la sainteté, ce qui explique ce terme employé ici. C'est pour Dieu qu'il vit, comme Paul le note dans Romains 6, 10, c'est pour Dieu qu'il vit, il vit pour Dieu. Et dans Galates 2, 19, afin de vivre pour Dieu, il y insiste bien, afin de vivre pour Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5, 15 aussi, il s'agit de vivre pour le Christ, pour celui qui est mort pour tous, vivre pour Dieu. L'homme nouveau, créé dans la sainteté, est donc l'homme qui vit la communion avec le Père et le Fils, la communion parfaite. Il appartient à Dieu, corps et âme, sans aucune contradiction. Il n'y a rien dans cet homme qui puisse apparaître comme une contradiction avec ce qu'est Dieu lui-même. Je ne dis pas que cet homme a les prérogatives de Dieu, attention, je ne dis pas qu'il est Dieu, qu'il a les prérogatives de Dieu, mais il est dans la sainteté parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction dans sa vie, dans son esprit, dans son âme, dans son corps, aucune contradiction avec ce que Dieu est lui-même, car soyez saints comme je suis saint. Par conséquent, il est créé dans une sainteté, la sainteté même de Dieu. Tout en lui, dans cet homme nouveau, glorifie Dieu en reflétant la gloire de Dieu. Eh bien, chers amis, cet homme nouveau, l'Écriture nous demande de le revêtir. Et quand le Seigneur Jésus nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu », il veut nous dire aussi, bien sûr, « Cherchez vraiment à avoir, à porter l'image de cet homme nouveau. Cet homme nouveau, c'est ce que Dieu veut que vous soyez, pas demain, pas dans l'éternité seulement, mais dès maintenant, le plus tôt possible, soyez cet homme nouveau. » Et alors, Éphésiens 4 nous a dit que cet homme nouveau est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, c'est-à-dire que produit la personne même de Jésus-Christ, empreinte de la personne de Dieu. C'est-à-dire, que produit la vérité, que produit la personne du Seigneur Jésus, où se trouve ce qui est immuable et ce qui est éternel. Le Seigneur Jésus est regardé comme le premier-né d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ est le roi du royaume des cieux, et il est né une seconde fois par sa résurrection pour être le premier de tous les sujets du royaume, pour être leur modèle et pour être aussi la porte et l'entrée. La porte et l'entrée du royaume. Il faut passer par lui. Il faut entrer par lui. Le salut, c'est une personne. Voilà, le salut, c'est une personne. Le salut, ce n'est pas une doctrine, même s'il y a une saine doctrine de Christ, et que cette doctrine, elle nous importe au premier chef, mais il ne s'agit pas de cela. Moi, j'ai connu des hommes, enfin, tout le monde peut avoir fait la même expérience, des hommes qui avaient une connaissance de la doctrine excellente, de la Bible en général, connaissance excellente. J'ai trouvé des personnes inconverties, mes amis. J'ai un jour assisté à, un jour, plus d'un jour, pendant un temps, assisté à des conférences d'un agrégé de lettres qui s'était spécialisé dans l'étude, l'étude historique des idées, l'étude des idées, l'étude historique. Il voyait comment les idées avaient évolué au cours des siècles. Et il passait forcément à l'époque du Nouveau Testament. Et j'ai été assez étonné de l'entendre donner des analyses, mais exactes, magnifiquement exactes, de Paul, des épîtres de Paul. Je sais vraiment, mais il a étudié les Écritures, et comment parvient-il, lui, qui manifestement n'était pas converti parce qu'il le disait assez, hein, comment peut-il vraiment donner une analyse aussi juste de certains passages, certains enseignements des épîtres de Paul? Eh bien, donc, il avait acquis une certaine connaissance de l'Écriture. Ça montrait d'ailleurs que l'Écriture, même pour un profane, veut dire quelqu'un qui n'est pas entré dans la voie du salut, l'Écriture a un sens bien déterminé. Si on veut le trouver, ce sens, on le trouve. Et il pouvait faire une analyse très exacte de certains passages des épîtres de Paul. Et pourtant, il n'avait rien dans le cœur, absolument rien. Et pour lui, Jésus était un personnage historique comme d'autres, mais enfin, il ne lui accordait absolument pas sa qualité de fils de Dieu. Alors, donc, le salut, ce n'est pas d'accepter, d'admettre, d'être d'accord sur une doctrine, fût-elle cette doctrine tout à fait exacte. Le salut, c'est une personne. Tant que nous ne sommes pas entrés par la porte, nous ne pouvons pas être sauvés. C'est donc un lien absolument personnel, intime et vivant avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui nous sauve. C'est pourquoi il dit « Je suis la porte ». C'est moi l'entrée, c'est moi le chemin. Il faut emprunter un chemin, il faut passer par une porte. Il est un esprit vivifiant, nous dit aussi 1 Corinthiens chapitre 15. Ou encore, selon l'épître aux Hébreux chapitre 12, il est l'initiateur de la foi, le chef et le consommateur de la foi selon second, l'initiateur de la foi, il est celui qui mène la foi à son complet accomplissement. Il est bien le chemin, la porte, l'on ne peut entrer dans la vie nouvelle, dans le règne des cieux, dans le cinquième règne dont nous parlions hier, que par lui. Et c'est par son soutien aussi, c'est par son soutien que chacun des membres de l'Église peut parvenir à la maturité spirituelle. L'Épître aux Hébreux nous dit bien, dans son chapitre 1er et au verset 3, chapitre 1, verset 3, que le Seigneur Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, la gloire du Père et l'empreinte de la personne du Père, et qu'il soutient toute chose par sa parole puissante. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Nous avons aussi quelque chose d'équivalent dans le chapitre 1er des Colossiens. Nous avons cela aussi dans l'Apocalypse au chapitre 4, au chapitre 4 de l'Apocalypse, et cela est proclamé dans le ciel, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Vous voyez, il y a une volonté qui s'est employé à la création des êtres que nous sommes, et ensuite une volonté qui continue d'être, de se manifester, une volonté qui leur permet de conserver l'existence. Donc nous sommes soutenus par chacun des rachetés, soutenus pour parvenir à la maturité spirituelle, ainsi que Paul nous l'expose également dans le chapitre 4 de son épître aux Éphésiens. Eh bien, en résumé, nous disons que Jésus-Christ, que nous avons regardé comme le nouvel Adam, et comme l'homme nouveau, je pense que c'est très éloquent ça, le nouvel Adam. Il y avait un premier Adam. Bon, ce premier Adam, il a tout gâché, il a tout fait tomber, choir. Et le nouvel Adam, ou le second Adam, ou le dernier Adam, peu importe, lui est venu en bas chercher ce qui était tombé, ce que le premier avait fait tomber, et il l'a fait remonter, il a redressé tout cela. Donc c'est très éloquent ce terme de nouvel Adam ou de second Adam. Et puis l'homme nouveau qui est là dans le ciel, le Seigneur, il y a un homme à la droite de Dieu, il y a un homme, c'est cet homme nouveau. C'est Christ, il a son identité, et c'est à l'image de cet homme que nous sommes appelés à être. Mais déjà, cela étant en voie de réalisation, il faut considérer la vie chrétienne comme étant précisément le temps que Dieu nous accorde, bien sûr, pour témoigner à l'égard du monde, mais aussi pour nous, pour que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Il faut y arriver, il faut considérer que la vie chrétienne est cela. Ce n'est pas, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de stable, une attente avec la piété nécessaire pour ne pas perdre. C'est bien plus que ça, il faut gagner, il faut arriver à la stature, à la maturité parfaite. Jésus-Christ est donc celui qui dégage ses frères de la mort, celui qui ouvre l'accès au royaume et à Dieu, étant le chemin ouvert ou étant la porte d'entrée, celui qui porte ses rachetés et les soutient, celui qui porte comme autrefois Dieu portait Israël dans le désert. Le Deutéronome rappelle cela, mais n'avez-vous pas été portés dans le désert? Ils étaient tellement portés que leurs souliers ne se sont pas usés pendant 40 ans. Ils n'ont pas eu mal aux pieds, ils n'ont pas eu les pieds enflés. C'est quelque chose. Ils ont été portés par Dieu. Et maintenant, le Seigneur nous porte un chemin. Il a dit, je suis le chemin, mais un chemin non seulement nous conduit vers une destination, mais il nous porte. Le chemin nous porte. Jésus est donc celui qui porte ses rachetés et qui les soutient, mes amis, nous devons compter fermement, toujours, sur le soutien du Seigneur Jésus. La confiance que nous donnons à Dieu et à Jésus-Christ est une confiance consciente. Nous savons que nous nous sommes confiés à Dieu pour certaines choses bien précises, et notamment parce que Dieu seul, Jésus-Christ seul, nous soutient dans notre avancement. Puis, Jésus-Christ est le modèle de ses rachetés, et enfin, il est leur roi. Voilà ce que nous pouvions dire maintenant dans le cadre de cette sixième méditation sur l'homme nouveau. J'arrête maintenant et demain, Dieu voulant, notre septième partie sera consacrée au sujet que voici, l'Église et le royaume, ou bien alors, j'ai donné un deuxième titre, la vie du Christ dans l'Église. La vie du Christ dans l'Église, ou l'Église et le royaume. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant prier le Seigneur.